Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait.
Tranche de vie, une émission proposée par JF.
Tu peux me secouer.
La filature de Lille est un pôle culturel que tous les périgourdins connaissent. Et nous avons la chance aujourd'hui, chers auditeurs de Tranche de vie, de rencontrer un des professeurs de l'école de musique, de l'école de musique et de chant de la filature, connu aussi de beaucoup de périgourdins sous le sigle IMR. Cette école est une école qui aborde tous les aspects des musiques actuelles et Coralie a accepté de nous présenter l'IMR et de parler de son activité et de sa carrière de chanteuse. Coralie, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous définir les fonctions et les orientations de l'IMR ?
Alors, l'IMR, c'est une association qui a pour but de donner donc, des cours, d'offrir à un maximum de gens des cours de musique sous des formes assez ludiques. Mais pas que, évidemment. On s'adresse à tout type de gens, que ça part des enfants avec l'éveil musical aux retraités qui s'y mettent là, de plus en plus, à faire de la musique. Voilà, donc la fonction, elle est avant tout de transmettre, mais d'avoir aussi beaucoup d'échanges, puisqu'on a aussi pas mal d'ateliers de jeux en groupe. On essaie que les gens se rencontrent, qu'ils partagent un moment, et toujours dans la joie, la convivialité.
Quelles sont les différentes activités de l'IMR ? Quelles sont les différentes activités que vous proposez à vos membres ?
Alors j'espère ne rien oublier. Donc comme je disais, ça part d'éveil musical pour les plus petits, 4-6 ans environ. Ensuite, il y a un peu plus haut que l'éveil, c'est la classe, on va dire, d'initiation qui est un petit peu au-dessus, quand les enfants ont commencé à s'intéresser à la musique. Nous avons aussi pour les enfants ce qu'on appelle un labo créatif, c'est un de nos professeurs qui a créé ça, qui est orienté pour tous les enfants qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, n'ont pas d'objectif principal sur l'instrument, ils veulent toucher à une guitare, un piano, faire des arrangements, faire des voix. Donc ils vont avoir une manière créative, comme on ferait avec de la chimie, de mélanger des instruments, des sons. Pour pouvoir créer et avoir une autre idée en fait, de la musique, plutôt que d'avoir, entre guillemets, l'idée traditionnelle. On commence un instrument, on écrit, on apprend le solfège, on apprend à faire ses gammes. Le labo créatif offre d'autres possibilités.
Est-ce que vous pensez que ce choix de l'éveil de la créativité de l'enfant par rapport à la formation classique avec le professeur où on aborde un instrument directement, c'est quelque chose d'utile.
C'est utile à tous ceux qui ont du coup pas trouvé de place avec le système entre guillemets classique. Voilà, je ne parle pas classique de musique classique, je parle système classique d'apprentissage. Et on a de très très bons retours en fait de beaucoup d'enfants et ça marche très bien. Donc je pense qu'effectivement il y a une place à prendre. Sur ce projet-là et on s'adapte. Il y a le fait de s'adapter et plutôt que l'enfant s'adapte à une méthode, on s'adapte aussi à l'enfant.
C'est un peu la maternelle de la musique.
Voilà, sachant qu'il y a un peu plus que la maternelle, jusqu'à préadolescent, on va dire. À peu près jusqu'à 11-12 ans, Seb les suit, voire des fois un petit peu plus.
Alors, après l'éveil ?
Alors après l'éveil, on a pour les plus grands. on a effectivement des cours de piano, des cours de saxophone, des cours de basse, de batterie et de percussion. On a un nouveau prof de batterie qui fait la percussion cette année. On a donc de la guitare, donc on a deux profs de guitare, parce que ça c'est quand même relativement demandé comme instrument. Le chant, que j'enseigne moi-même, et je crois que j'ai oublié personne. J'espère. Et surtout, effectivement, le jeu en groupe aussi, qui fait partie, tout le monde en pratique chez nous. Hein. Ça ferait vraiment partie de notre pédagogie d'amener les gens à jouer ensemble.
Voilà. Et alors, Dès le début, vous entraînez les gens, vous les orientez vers le jeu en groupe ou à partir du moment où ils ont atteint un certain niveau?
Il y a les deux qui se pratiquent. Certains attendent d'avoir un certain niveau, certains profs préfèrent ça. D'autres non, essayent de les pousser tout de suite au jeu en groupe parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'énormément de pratique pour arriver à faire quelque chose. Souvent, les plus grands tubes ont été écrits avec quatre accords et sont rien de bien complexe en fait. Donc, il faut savoir que c'est une motivation aussi quand la personne, elle apprend toute seule toute l'année dans sa chambre. Nous, notre but, c'est qu'effectivement, les gens y sortent et qu'ils aient envie de faire de la musique. Ouais. Si c'est juste un apprentissage qui dure des mois tout seul, souvent les gens se lassent. Donc,
Oui, puis il faut qu'il y ait un effet une émulation, un effet d'entraînement, j'imagine. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler, chose qu'on n'a pas peut-être dite, quand a été créé l'IMR?
Alors, moi, je n'étais pas née. Non, je plaisante. C'était en 1998, mais je ne faisais pas partie du projet. Cédric Blazinski a créé, avec l'aide de d'autres membres qui ne sont plus là aujourd'hui, a créé cette association. Voilà.
Ah, je ne savais pas que c'était Cédric qui avait créé l'IMR. Et alors, donc, vous avez été longtemps dans une petite rue là, qui est du quartier de la gare, et puis vous avez émigré dans les murs de la filature, c'est-à-dire beaucoup plus au large, et puis dans des conditions de confort professionnel beaucoup plus grandes, j'imagine. Quels sont vos clients?
Les clients sont vraiment très, très diversifiés, en fait. Je pourrais pas... On essaie de faire des statistiques, comme un peu tout le monde, pour savoir quelle tranche d'âge, quel type de public. Mais honnêtement, chez nous, c'est très, très varié. La plupart du temps, on ne sait pas dans quoi travaillent nos élèves, puisque les élèves sont aussi beaucoup d'adultes. Donc, on ne connaît pas forcément leur profession, on ne pose pas de questions. Seul Cédric a les statistiques et connaît ce genre de choses et pourrait répondre. Mais... On ne peut pas dire qu'on cherche à atterrir une certaine catégorie de gens, puisque nous-mêmes, on ne pose pas la question de savoir qui c'est qu'on a en face de nous, en fait.
Mais sachant que votre vocation, ce sont les musiques actuelles, est-ce que vous avez, par exemple, des gens qui ont une formation classique ou qui ont des activités de musique classique et qui viennent chez vous parce qu'ils veulent goûter autre chose?
Tout à fait. Et nous avons aussi un professeur qui est Cyril Prévost, qui travaille chez nous et qui est aussi au conservatoire. Donc déjà, les passerelles se font puisque quand on fait des ateliers, des concerts, des apéro-concerts, il invite ceux du conservatoire à le faire ici chez nous. Et parfois, nous sommes amenés aussi à aller au conservatoire. Donc depuis des années, ça se pratique déjà, qu'il y ait ce mélange-là, cette mixité. Et puis, on a aussi des gens qui ici, de la musique rock, passe au classique et à l'inverse, qui du classique viennent chez nous aussi. Donc,
Ah oui, l'inverse aussi arrive.
Oui.
Alors, quels sont les partenariats qu'a l'IMR avec des je ne sais pas moi, par exemple avec le monde de l'enseignement, avec une structure comme le Sans Réserve qui est tout près de la filature?
Le partenariat avec le Sans Réserve ou le Roxane qui est sur Bergerac sont des salles de concert. Nous avons certains projets en commun parce qu'on fait partie donc de la SMAC de Réseau Dordogne ensemble, tous les trois. Et les projets se font sur des masterclass notamment. Il y en a une bientôt. Sur un projet qui s'appelle les Rancards électriques où les élèves d'ici, les élèves aussi du conservatoire et de Bergerac et du Sans Réserve viennent autour d'ateliers, autour de concerts, autour de choses... Donc nous avons des projets en commun. Et en ce qui concerne l'enseignement, je peux parler que du périscolaire aujourd'hui que nous pratiquons, parce qu'on a un contrat aussi avec la mairie de Périgueux sur beaucoup d'écoles et on est tous amenés à aller faire du périscolaire. Voilà, depuis 2 ans maintenant ou 3, je ne voudrais pas.
Donc ça c'est quand même une activité qui est susceptible de vous amener des clients, j'imagine.
Mais du coup, on essaie de les initier très, très jeunes à la musique, à l'envie, parce que bon, là, ce ne sont pas des cours à proprement parler, c'est des ateliers ludiques. Et effectivement, certains enfants ensuite rejoignent l'IMR par plaisir, parce qu'ils nous ont découvert aussi à travers ce travail périscolaire.
Avant de passer à votre activité proprement dite, vous avez évoqué les masterclass. Comment est-ce que vous arrivez, comment est-ce que vous pouvez identifier les gens, les invités ici? Est-ce que vous recevez des musiciens en résidence ici? Ou bien comment vous organisez vos masterclass?
Ça dépend en fait d'un goût commun. Souvent, ça peut se faire avec le Roxane. Si le Roxane et l'IMR ont envie d'un artiste en commun, on fait un partenariat pour que les frais soient divisés. Donc, ça peut être une thématique souvent plutôt rock, et une question de budget aussi. Ça nous arrive d'organiser aussi avec le SIAM de Bordeaux, qui est une école de musique. Donc, le choix se fait en fonction des goûts un petit peu en commun, et puis voilà, de ce qui nous est possible aussi de faire.
Alors, vous parlez du possible, du point de vue budgétaire. Est-ce que le fait d'être maintenant dans cette structure de la filature, d'avoir pris de l'étendue, de l'expansion, est-ce que ça s'est accompagné aussi de moyens suffisants pour travailler dans les activités diverses que vous avez évoquées?
Alors évidemment, déjà, on est dans ces locaux gratuitement et offerts par la mairie, donc c'est déjà super pour nous, puisque on a un confort de travail qu'on n'avait pas, on a des moyens supplémentaires puisqu'on a des salles et on peut développer d'autres choses qu'on n'avait pas au 22 rue Saint-Gervais, pour ne pas le citer. Après, en termes de moyens, on est suivi, que ce soit par la mairie ou plein d'autres partenariats, que je ne citerai pas parce que je vais en oublier, je ne veux pas faire de bêtises, mais suffisamment, c'est jamais assez suffisant pour aller au bout de certains projets en fait. Au jour d'aujourd'hui, certains projets ont un peu plus de mal à se développer par manque de moyens, et ça c'est
parce que quand on rentre chez vous, dans le hall, on voit quand même déjà toutes sortes d'instruments, on se rend compte que tout ça a un coût, et donc il faut y faire face. Même, alors j'imagine que vos élèves sont payants, ça veut dire que vos cours sont payants.
Ah oui, parce que c'est ce qui nous permet de vivre. Ce qui nous permet de vivre, mais ça ne suffit pas en fait. Donc si on n'avait pas d'autres subventions à côté de ça, ça ne suffirait pas. Le paiement des cours ne suffit pas à ce que ça paye tous les salaires des profs et des administratifs ici. Après, si vous avez vu dans le hall, oui, il y a eu des crédits de fait parce qu'on ne peut pas acheter autant d'instruments comme ça. Et puis, c'est surtout l'expo que vous avez peut-être vu au mur, mais ça, c'est des instruments de récup.
J'ai vu des instruments tout à fait bizarres, oui, des tuyaux, des sonnettes de vélo, enfin, beaucoup de choses étranges. Et ça, j'imagine que ça joue un grand rôle dans l'initiation et l'éveil des jeunes enfants, puisque, en général, ils sont capables de commencer à faire de la musique avec n'importe quoi. Mais... est-ce que maintenant, vous avez des perspectives qui vous permettent de dire, ben voilà, dans quelques années, on pourra développer telle ou telle activité, ou au contraire, ce qui se passe, qui est notoire avec les associations, vous amène à réviser certaines perspectives que vous auriez pu engager?
Mais je vais vous dire, c'est un peu au jour le jour, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait de combien on peut être suivi, demain, ça peut changer. Donc les projets, ils sont en fonction de si les subventions restent à cette hauteur-là, si nos élèves restent autant d'adhérents. On est un peu tributaire de ça. Alors on peut maintenir ce qu'on a déjà, je pense. Maintenant, sur l'avenir des projets, Cédric, je sais, il en a encore pas mal dans les tuyaux. Il en a toujours beaucoup. Mais certains verront le jour, d'autres peut-être pas. Ça, je ne peux pas vous répondre clairement.
En tout cas... on lui souhaite bonne chance et bon courage, parce que ça doit être quelque chose d'assez prenant de mener une entreprise comme celle-ci. Maintenant, chers auditeurs, nous allons passer au sujet principal de cet entretien, c'est-à-dire la carrière de Coralie, chanteuse, professeure de chant à l'Institut des musiques rock, c'est-à-dire à l'école de musique et de chant de la filature. Coralie, le chant, la chanson, vous êtes tombée dedans toute petite, ou est-ce que ça vous a pris plus tard, bien que vous soyez encore très jeune, puisque de toute façon, quand on rentre ici, on ne voit que des jeunes. Dites-nous un petit peu, comment vous êtes arrivée à la chanson?
Bien, écoutez, oui, je suis tombée dedans toute petite, parce que j'ai toujours aimé ça. Maintenant, j'ai quitté les études, comme beaucoup qui se disent, bon, finalement, je vais aller chanter. Et c'est ce que j'ai fait. J'en ai vécu pendant une quinzaine d'années. J'étais intermittente du spectacle. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'animations, de concerts, d'orchestres, enfin, des soirées diverses et variées, des manifestations dans différentes esthétiques. Voilà, et puis j'ai fini par avoir envie, enfin, quelque part, j'avais toujours envie de donner des cours, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'est après pour ça que je me suis mis aussi à être enseignante. Mais principalement, c'est vrai que moi, j'ai vécu de l'intermittence, de la bohème, d'un travail qui se passait souvent la nuit et dans un petit peu un autre monde, quelque part.
Si ça n'est pas indiscret, vous avez derrière vous une carrière de combien d'années maintenant ?
Alors là...
À partir de quand est-ce que vous avez commencé à dire, voilà, je suis une chanteuse professionnelle ?
Je crois que, je ne sais pas, bon, on va dire qu'il y a un peu plus de 20 ans, pour ne pas dire à quel âge j'ai commencé, mais oui. il y a un peu plus de 20 ans, oui.
Oui, donc vous avez commencé quand même très tôt. Alors, quels sont... Alors, vous êtes une chanteuse, vous n'êtes pas une chanteuse lyrique, je pense. Quels sont vos auteurs de prédilection ? Quels sont les genres de votre répertoire ? Qu'est-ce que vous préférez chanter ?
La question est vaste, puisque moi j'ai toujours chanté de la chanson française, étant plus jeune, évidemment, avec des parents, enfin, un père qui était un petit peu musicien et qui aimait ça, donc il m'a fait prendre connaissance de tout ce panel d'artistes de chansons françaises. Donc pendant longtemps, j'ai fait du cabaret aussi, j'ai fait des choses comme ça. Je suis passée, par le biais d'une belle-mère portugaise, je suis passée du coup vers le Brésil, pour le coup, en faisant de la musique brésilienne et en reprenant tous les standards de Tom Jobim, enfin peut-être pas tous, mais beaucoup. Et je me suis intéressée à cette langue, à cette façon de chanter, à ces rythmes-là. Ensuite, il y a beaucoup de choses aussi que j'aime dans le rock, dans la pop, dans la folk. Je me suis découverte peut-être un amour du rock que je ne m'étais pas autorisée à pratiquer, puisque je ne suis pas une chanteuse lyrique, mais j'ai fait du lyrique pendant plusieurs années. Parce qu'à Périgueux, je n'avais trouvé que ça pour pouvoir prendre des cours de chant. Et du coup, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais un peu plus de mal à exprimer mon côté rock qui vient aujourd'hui.
Alors, vous avez eu une formation classique au départ, et votre formation, elle s'est faite au départ à Périgueux, c'est ça ?
Tout à fait, au Conservatoire de Périgueux, voilà.
Alors, vous avez dit aussi quelque chose d'essentiel que nous n'avions pas abordé, en disant, ben voilà, comment est-ce que vous avez commencé ? Ben, vous avez commencé aussi parce que vous avez côtoyé des parents qui vous ont tiré vers ce goût de la musique et de la chanson. Dans le répertoire français, quelles sont vos préférences ?
Alors aujourd'hui, évidemment, je ne peux en citer qu'un parce que ça va faire 30 ans qu'il est mort en janvier. C'est Daniel Balavoine, dont je suis alors une fan absolue. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, je trouve ça un petit peu péjoratif. Mais peut-être que c'est celui qui m'a, même c'est sûr, qui m'a donné le plus le goût à la musique rock, à des textes un petit peu fouillés, à une humanité exceptionnelle. Et une envie de s'exprimer sur scène.
C'est Daniel Balavoine qui vous a le plus influencé, à votre avis ?
Oui, je crois que oui.
Est-ce que... Moi, il y a une chose qui me surprend beaucoup. Je voyais encore, il y a quelques jours, des rushs de concerts de Janis Joplin. Comment une chanteuse peut développer, une chanteuse de rock peut développer une telle énergie ? Bon, on s'émerveille toujours de l'énergie développée par les chanteurs de rock, mais plus rarement par les performances des chanteuses de rock. Comment on fait pour tenir tout un concert comme ça avec...
Alors, il y a ceux qui sont très sportifs. Je pense qu'effectivement, c'est un entretien du corps, de la tête, de beaucoup de choses. Et sportif, je parle donc du corps physique et je parle aussi des cordes vocales qui sont un muscle et il faut entretenir. Et puis il y a ceux qui mettent aussi, je crois que c'est, enfin, en tout cas c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est une énergie qu'il faut aller chercher peut-être dans une forme de colère et de révolte. Oui, ou en tout cas, c'est, voilà, pour moi l'image du rock.
Ce qui est bien le cas de la chanteuse qu'on évoquait. Mais Dans vos élèves, vous les initiez alors à la chanson française, mais est-ce que vous avez de jeunes élèves que vous initiez aussi au rock?
Alors, je vais essayer de dire que j'influence pas, que c'est eux qui viennent, tous les élèves, avec un répertoire ou une chanson, enfin quelque chose qu'ils ont choisi. Moi, j'interviens pas là-dedans. J'interviens vraiment sur la technique vocale où je les aide à placer leur voix et à s'en servir du mieux possible. Après, en termes de goût et d'esthétique, j'essaie de pas influencer. Je peux donner mon avis ou conseiller certaines choses, mais je crois qu'il y a, il y a du bon à prendre partout. Après, il y a des choses qui résonnent plus chez vous que chez d'autres. Et...
Vous découvrez des perles, vous avez des élèves particulièrement brillants dont vous attendez beaucoup.
Alors oui, j'ai des élèves brillants, j'ai des élèves qui sont surprenants, mais je crois qu'ils sont tous, les gens sont tous surprenants parce que on s'attend pas, souvent au niveau de l'émotion, on s'attend pas à ce qu'il y ait des choses qui sortent au moment où, enfin les choses elles sortent au moment où on s'y attend pas. Et des fois c'est surprenant par une simplicité. Et que quand on a la connaissance, on essaie toujours d'en mettre beaucoup, de montrer ce qu'on sait faire. Et je crois que moi, la plupart du temps, quand je me laisse surprendre, c'est avec quelque chose de très très simple.
Quand vous dites, quand vous vous laissez surprendre, quand vous vous laissez submerger par l'émotion d'un texte, parce que c'est une question que je voulais vous poser aussi. Comment est-ce qu'on maîtrise l'émotion qui peut surgir de l'interprétation d'une œuvre particulièrement bouleversante?
Alors, il y a des exercices pour ça, notamment de paraphraser les textes, de les réécrire à sa sauce, d'en prendre énormément connaissance pour qu'effectivement on ne soit pas surpris. Mais l'idée, c'est qu'on se laisse bouleverser. C'est l'idée première. C'est absolument génial de se laisser bouleverser et on ne sait pas à quel moment ça va nous prendre. Et moi, je sais que personnellement, quand ça m'arrive, c'est merveilleux. Après, le seul souci, c'est savoir revenir à son texte et pas non plus déborder dans les sanglots ou une émotion qu'on n'arrive plus à maîtriser. Il faut juste avoir cette possibilité de « ok, on se relâche », mais revenir après à ce qu'on est en train de faire.
Il y a des exercices pour ça?
Pour revenir? Bon, je crois qu'effectivement, quand on a bien bien travaillé son texte et qu'on l'a répété, qu'on l'a remis à notre sauce avec nos propres images, parce que c'est ça l'important, c'est pas les images forcément de l'artiste, c'est nos propres images, à quoi ça nous renvoie. On a tellement tout exploré que quelque part, il y a moins de risques de se faire déborder.
Oui. Revenons, si vous voulez, puisqu'on a encore un petit peu de temps, sur vos auteurs préférés. Vos auteurs préférés. En dehors de Daniel Balavoine.
En chanson française.
Et dans le répertoire français.
Il y en a beaucoup. Encore une fois, on a peur d'en oublier, mais je pense qu'on peut citer Nougaro, on peut citer Gainsbourg, on peut citer Barbara ou Brel. Quitte à faire la vieille France, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à me retrouver dans les auteurs d'aujourd'hui. Donc je pioche toujours dans le répertoire il y a 30, 40, 50 ans.
C'est vrai que ça susurre un petit peu là, aujourd'hui. Léo Ferré?
Évidemment, Léo Ferré, beaucoup, oui. Après, il y a des choses qu'on découvre aussi aujourd'hui. Hein. Peut-être que demain, mon oreille va changer aussi sur les auteurs d'aujourd'hui. J'aurai une autre façon d'aborder les choses. Un peu de recul. Parfois, il faut un peu de recul pour apprécier.
Et un peu plus en arrière, dans le 19e siècle, à la charnière du 19e et du 20e, il y a aussi des chansons qui sont appréciables.
Oui, peut-être Cerise et Rose et Pommier Blanc. On doit être dans ces années.
Non, je parle de Bruant.
Oui, évidemment. Mais là, on remonte à des chansons ou des textes que moi, pour ma part, j'ai pas vraiment utilisé parce que bon, j'ai aussi chanté en maison de retraite, mais c'était des choses un tout petit peu plus récentes, peut-être, pour le coup. Donc... Je ne suis pas allée encore bien fouiller dans ce répertoire-là, précisément.
Maintenant, je vais vous poser la question que je pose à toutes les personnes qui acceptent de me parler. Parler pour les auditeurs de Radio Libre en Périgord. Votre métier vous passionne, manifestement. Est-ce que vous avez d'autres passions ?
Oui. Alors, est-ce qu'il y a un lien ou pas ? Pas du tout. Oui, je suis passionnée de massage, en règle générale. Et surtout de Zen Shiatsu, qui est une pratique, un art japonais, qui parle de rééquilibrage d'énergie, voilà, qui se pratique habillée sur un futon. Et je suis devenue praticienne en Shiatsu depuis quelques années.
Et là, ça, vous l'avez fait par intérêt pour les techniques médicales, les connaissances médicales orientales, les thérapies orientales, ou bien par goût pour le massage, le contact, la recherche de solutions alternatives aux médications classiques ?
Un peu les deux, puisque c'est vrai que la philosophie japonaise ou chinoise est de prévenir plutôt que guérir. Donc déjà, cette philosophie m'intéressait beaucoup. J'avais envie d'apprendre. Après, le Zen Shiatsu, le Shiatsu en général est appelé l'art du toucher. Donc oui, le contact a forcément beaucoup d'importance. Et puis l'empathie, et puis apprendre aussi le silence, des choses.
Et là, vous arrivez à vous perfectionner encore. Vous recevez un enseignement, vous avez reçu un enseignement
Oui, j'ai reçu un enseignement et puis j'ai fait quelques stages complémentaires. Mais là, me perfectionner, je ne sais pas. Peut-être certaines personnes me le diraient. Est-ce que moi, je ressens que je me perfectionne Je ne pourrais pas dire, en fait. C'est tellement subtil par moment que...
Est-ce que cette technique, sa pratique, apporte quelque chose à votre travail de chanteuse ?
Oui, une lecture du corps, je pense. Une lecture du corps avec des tensions, des choses qui font que les gens ne sont pas toujours à l'aise pour chanter. Donc ça m'arrive des fois, quand ils sont un petit peu tendus aussi, de leur proposer une petite détente avant. C'est pour ça qu'on trouve une chaise de massage dans ma salle.
Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, dans la salle de Coralie, il y a un clavier, bien sûr, il y a un micro, bien sûr, mais il y a une chaise de massage et il y a un divan qui ressemble un petit peu à une chaise inclinable qui ressemble un peu à celle où on se couche pour se livrer aux soins du dentiste et qui sert aussi, m'a-t-elle dit, à la relaxation de certains élèves et à son repos entre les séances de chant. Coralie, merci beaucoup. Et nous vous souhaitons évidemment toute la chance possible dans la poursuite de votre beau métier.
Bien, merci à vous d'être venu dans notre petit local et agréable, j'espère, et convivial. Donc, bonne année à tous et encore merci.
Merci beaucoup.
Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema.
C'était Tranche de Vie, une émission proposée par Jean-François.
E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano, seu nome eu não sei. Esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Ligia, Ligia.